7 heures. Le journal du 7 heures. Mel Emmanuel.
7 heures à Transuaille en temps universel. Bonjour à tous. Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé a procédé hier à l'inauguration du tribunal de première instance et du centre d'observation des mineurs de la commune de Bingerville. Vous aurez ses propos pour l'occasion dans ce journal. Au Mali, au moins une quarantaine de soldats des forces armées et des chasseurs traditionnels d'Ozo auraient été tués dans une attaque du Jinim dans la ville symbole de Farabougou. Ce matin, le parcours des titres de la presse ivoirienne sera l'affaire de Jean-Mélène Bitti. Et l'invité de la rédaction aujourd'hui est Johan Kmonesis. Il est le directeur du Hub Média Régional et porte-parole francophone du département d'État américain. Avec Ghislain Koulibaly, il revient sur la contribution financière des États-Unis à l'endroit des pays vulnérables et sur d'autres programmes dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire face au changement climatique. Bienvenue à tous. C'est dans la commune de Bingerville que nous ouvrons ce journal. Le tribunal de première instance et le centre d'observation des mineurs de la commune ont été inaugurés hier mercredi 13 décembre par le Premier ministre Robert Beugré-Mambé en présence de Christian Yoka, directeur Afrique de l'Agence française de développement, et de Sanson Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Bâti sur 4 états entièrement équipés, la construction du tribunal de première instance a coûté près de 6,3 milliards de francs CFA. Quant au centre d'observation des mineurs, construit sur le même site, avec une capacité de 70 pensionnaires, il a coûté 1,5 milliard de francs CFA, financé entièrement par le contrat de désendettement et de développement C2D. Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé, lors de son allocution, est revenu sur les actions menées par le chef de l'État Alassane Ouattara dans le système judiciaire.
L'accès à la justice constitue un droit fondamental pour tous. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, profondément attaché à l'état de droit, en a fait un acte prioritaire de la politique gouvernementale depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Le gouvernement a entrepris de conduire un programme ambitieux de construction d'établissements modernes pour répondre au déficit d'infrastructures constatées dans ce secteur stratégique en vue de rapprocher davantage les populations des services judiciaires avec pour objectif essentiel le maintien d'un climat de paix et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. La construction de nouvelles juridictions, notamment à San Pedro, à Giglo et à Bobo, ainsi que les sièges des cours d'appel de Korogo et de Daloa, et bientôt la prison de haute sécurité de Korogo, s'inscrivent dans ce vaste programme gouvernemental de rénovation et d'extension de notre système judiciaire.
Vie des partis politiques, élection pour la présidence du PDCI-RDA, le nom et l'image du professeur Maurice Kakou-Guikaouye ne doivent pas être associés au processus électoral. C'est la mise en garde faite par son conseil et son porte-parole au cours d'une conférence de presse pour dénoncer, selon eux, l'injustice faite à leurs clients. Junior Cardin pour plus de détails.
À l'entame de cette conférence de presse, Kouna Marius, le porte-parole du professeur Maurice Kakou-Guikaouye, a demandé aux Ivoiriens de retenir une seule chose.
Le candidat Maurice Kakou-Guikaouye a été éliminé. C'est ça qu'il faut retenir. Et il a pris acte de son élimination injuste et non fondée.
Cette injustice, au dire du conseil de Maurice Kakou-Guikaouye, les autorise à mettre en garde ceux qui gèrent le processus électoral sur un état de fait. Maître Koto Attabi.
Parce qu'il nous revient de sources bien introduites et de façon récurrente que le nom éliminé, l'image du professeur Maurice Kakou-Guikaouye serait déjà inscrit sur les bulletins de vote. Nous les mettons en garde que s'ils le font, malgré la position du professeur Maurice Kakou-Guikaouye, nous serons donc obligés de nous pouvoir en justice, ce qu'on ne voulait pas faire, pour préserver son image et son nom. Ça, c'est une mise en garde et nous allons la formaliser dès ce soir même.
Le porte-parole Kouna Marius a énuméré un certain nombre de décisions qui, selon lui, montrent la preuve de certaines manigances énormes. Nous retenons celle-ci.
On ne peut pas dire dit qu'on fait un processus électoral, on écrit les règles de départ, on dit qu'on recense les candidatures, on passe par ci, on passe par là, et à la fin on dit nous allons afficher la liste définitive des candidats. Et puis on est assis là, nous tous, on a ouvert la campagne hier à minuit jusqu'à aujourd'hui. Qui peut me dire s'il a vu une liste officielle des candidats? On ouvre une campagne électorale sans connaître les candidats. Vous avez déjà vu ça quelque part?
Il a donc affirmé qu'effectivement, il a été signifié oralement au professeur Maurice Kakoudjikawe qu'il était éliminé avec pour prétexte le contrôle judiciaire. Toutefois, Kona Marus rassure que Djikawe demeure PDCI-RDA.
Et sur le même sujet, la décision de retrait du professeur Maurice Kakoudjikawe est une preuve de réalisme et d'un sens politique hors pair, affirme Dr Eddy Guipier, politiste, enseignant-chercheur à l'université Pelleforogon Koulibaly de Korogo.
Nous en étions à quasiment trois candidats lorsque le secrétaire exécutif en chef, professeur Maurice Kakoudjikawe, a annoncé que son dossier avait été rejeté par le comité électoral, sans pour autant produire l'acte querellé. Toujours est-il qu'effectivement, il y a quelques jours, professeur Maurice Kakoudjikawe a finalement décidé de retirer sa candidature pour éviter, comme il a dit, que le parti se déchire. Hier, nous avons vu aussi que le président par intérim du parti a produit une décision en disant qu'en aucun moment le comité électoral n'avait rejeté la candidature de M. Guitaré. Ce jeu des communiqués, on peut se perdre. Toujours est-il que, conforme à sa tradition, c'est le principe du réalisme qui s'impose, on va dire, à l'intérieur du parti. M. Guitaré a sans doute constater que l'équilibre des pouvoirs n'était pas forcément en sa faveur. Donc, c'est effectivement, en vertu de ce qu'on pourrait appeler le réalisme ou bien la réelle politique en particulier, qui va motiver celui qui apparaît comme étant un vrai apparatchik d'un sens politique européen à se retirer pour éviter que le parti se déchire.
À l'instant, les dires du docteur Eddy Guipier, politiste, enseignant-chercheur à l'université Pelleforogon Koulibaly de Korogo, rapporté par Soro Adams. Parlons à présent de sécurisation des biens et des personnes en cette période des fêtes de fin d'année. Dans le cadre de l'opération Épervier 9, le préfet de la région du Kabadougou et préfet du département d'Odienné exhortent les forces de l'ordre à faire seulement leur travail en toute légalité et légitimité afin, soutient-il, d'éviter des supputations sur leur compte. Le préfet Fami Kwame René est au micro de Bakary Touré Labasse, notre correspondant à Odienné.
À l'image des premières opérations, vous allez vous comporter en homme de paix, un homme qui apporte la sécurité, de sorte que nous puissions fêter la fête de Noël et de Nouvel An dans l'allégresse et dans la sécurité la plus totale. Faites votre travail. C'est vrai, on va vous critiquer, mais si vous le faites dans le respect des têtes, si on vous critique parce que vous avez arrêté quelqu'un qui n'a pas porté de casque, ça c'est un jugement à tort. Mais si vous posez un acte autre que celui-là, vous prenez l'argent aux gens, ça vous éloigne de la mission qu'on vous a donnée. Mais faites votre travail dans la conscience la plus totale. Et je souhaite qu'à la fin de cette opération, nous fassions un bilan. Qu'on sache que le taux de criminalité, le taux d'agression, le taux de toutes sortes de trafic est fortement diminué. Également, que nos frontières, que surveillent avec beaucoup de courage les fascistes, soient également un lieu de sécurité où les populations peuvent vaquer quotidiennement et dans la paix à leurs activités.
Du Kabadougou, nous prenons la direction du Bassa-Sandra. À San Pedro, l'opération Épervier 9 a été lancée le mardi 12 décembre 2023. Objectif, maintenir la quiétude et la sécurité publique en cette période de fête de fin d'année. Des détails avec Kofi Benson, notre correspondant de région.
L'opération Épervier 9 avait pour acteurs la police nationale, la gendarmerie nationale et le bataillon de sécurisation du Sud-Ouest est une opération qui est mise en œuvre pour le bien-être des populations, selon le commissaire principal de police, Kwame Henri Michel, préfet de police adjoint de San Pedro.
L'opération Épervier 9 vise pendant ces fêtes de fin d'année à sécuriser les établissements financiers et bancaires ainsi que les commerces, détruire les sites servant de fumoirs, occuper rationnellement le terrain par des patrouilles suivies de rafles. et agit en ayant en esprit la menace terroriste. Chers collaborateurs, je vous engage au professionnalisme et à la culture du bon résultat, à faire preuve de courtoisie, de rigueur, à travailler dans le respect des droits humains et renforcer la collaboration police-population.
Pour Kone Soumaïla, sous-préfet de San Pedro, la sécurisation de la CAN est un défi à relever.
San Pedro accueille la CAN 2023. Ceci constitue un défi pour nous et je voudrais ainsi mettre en mission toutes les forces afin qu'elles puissent assurer la sécurité des biens et des personnes.
L'opération Épervier 9 intervient à la suite de l'opération Vacances Sécurisées 8, dont quelques résultats donnent 31 fumoirs détruits, la saisie de 150 sachets de boulettes de cannabis, 25 sachets d'héroïne, environ 900 kg de médicaments de qualité inférieure falsifiés, 1084 personnes raflées sur le signal de la police technique et scientifique. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Revenons à Abidjan cette fois-ci pour parler de la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat qui s'est ouvert mardi 12 décembre au Parc des Expositions d'Abidjan sur la présidence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné. Placé sous le thème Architecture durable et industrie locale, l'édition 2023 vise à faire la promotion des objectifs de développement durable et se veut une lucarne pour les industriels et professionnels afin de valoriser l'industrie locale à travers des expositions, des panels, des rencontres B2B. Linda Ballier.
Sur les raisons du choix de ce thème, écoutons le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Joseph Amon.
Cette édition s'inscrit dans un processus visant à engager les architectes ivoiriens, mais aussi de l'espace ouest africain à travers sa conférence, dans un processus associant les industriels de nos États intervenant dans les secteurs du bâtiment principalement et de tous les autres secteurs du développement de nos pays.
Réagissant sur le thème du panel inaugural Architecture durable et industrie locale, le ministre de la Construction, Bruno Koné, a invité les architectes à s'adapter au changement climatique et proposer des projets durables et abordables.
Face aux effets du changement climatique, il nous faut faire preuve d'une extrême agilité en adaptant nos modes de vie, notre manière de nous loger. C'est dans ce contexte que vous devez jouer votre rôle. Il vous faudra proposer une architecture qui soit à la fois résiliente et durable, tout en étant compétitive et abordable.
Ajoutons que
ce salon est une lucarne à saisir collectivement pour challenger nos idées, en proposer de nouvelles, réviser nos approches si cela est nécessaire, car il n'existe pas de modèle universel d'une architecture durable, réplicable d'un pays à l'autre.
Notons que ce sont près de 200 exposants et plus de 30 000 visiteurs qui sont attendus à cette 9e édition de Archibat qui s'achèvera le 16 décembre prochain.
Hors de nos frontières au Mali, le village symbole de Farabougou a enregistré une attaque sanglante du Jinim. Le groupe lié à Al-Qaïda a mené une attaque d'envergure le mardi 12 décembre dans l'après-midi à Farabougou, région de Ségou, dans le centre du Mali. Au moins une quarantaine de soldats maliens et de chasseurs traditionnels d'Ozo auraient été tués dans ce village devenu symbole à la fois des souffrances de la population malienne et des efforts des autorités de transition pour tenter de restaurer la sécurité. De retour en studio, nous sommes en compagnie de Jean-Mélène Bitti pour la revue des titres de la presse ivoirienne parue ce jour. Bonjour.
Bonjour Amani, bonjour à tous. Le congrès du PDCI avec le cas Maurice Kakoudjikaouye, l'Assemblée générale élective des femmes du RHDP et l'inauguration du tribunal de première instance et le centre de détention des mineurs de Benjerville sont à la une de vos journaux de ce jeudi en Côte d'Ivoire. L'actualité politique domine cette revue des titres de vos journaux de ce jeudi et ouvrons ce chapitre avec le PDCI RDA qui va le 16 décembre prochain élire le successeur d'Henri Konan Bédier. À ce propos, à la une du Nouveau Réveil, on peut lire PDCI RDA, congrès de samedi, voici les dernières consignes. Soirinfo affirme qu'à deux jours de l'élection du président du PDCI RDA, l'avocat de Djikaoué fait une sévère mise en garde et fait des précisions. Congrès extraordinaire du PDCI, pourquoi l'avocat de Djikaoué menace de saisir la justice, titre l'intelligent d'Abidjan. Selon l'avenir, le ton monte au PDCI à 48 heures du congrès. Le staff de Djikaoué dénonce une provocation inacceptable et met en garde. Nous serons obligés de saisir la justice. Génération Nouvelle lui fait savoir de son son côté, grand favori à la présidente du PDCI, pourquoi rien n'a gagné pour Tidiane Thiam. Le fleuve PDCI est très agité à 48 heures du congrès électif du 16 décembre et ceci est très visible à la une de l'Inter qui indique que l'avocat du Dikaoué fait une sévère mise en garde. Pour faire complet sur ce sujet, on peut lire dans Fraternité Matin, les avocats de Dikaoué menacent. Autre actualité politique à la une de vos journaux, l'Assemblée générale élective des femmes du parti d'Alassane Ouattara. Et à ce sujet, le Patriote nous informe que plus de 8000 femmes attendues à l'élection de la nouvelle présidente de l'UFRHDP. Le Jour Plus, quant à lui, fait le portrait robot des 6 candidates en titrant « Qui sont les 6 femmes retenues ?» Femme du RHDP, Raymond Goudou Kofi explique comment la nouvelle présidente sera élue, nous dit de son côté l'intelligent d'Abidjan. Élection à la tête de l'UFRHDP, Raymond Goudou Kofi rassure dans les colonnes du quotidien Le Matin, tout se fera de façon démocratique. À l'avenir de mettre en manchette, élection des femmes du RHDP, Raymond Goudou Kofi dit tout. Toujours dans la même veine, Arlette Badou, candidate à cette élection, dit dans Soir Info que l'UFRHDP doit donner envie aux femmes d'adhérer au RHDP. Et puis l'inauguration du tribunal de première instance de Benjerville par le Premier ministre figure dans les titres de vos journaux de ce jour. À ce niveau, Fraternité Matin ouvre ce chapitre avec ce titre « Inauguration du tribunal de première instance de Benjerville, priorité à l'état de droit ». Le Patriote revient aussi sur cette activité et nous dit « Benjerville, justice, le Premier ministre inaugure le tribunal de première instance ». Le Nouveau Réveil de son côté annonce « Benjerville, justice et proximité, Mambé inaugure le tribunal de première instance et le centre d'observation des mineurs ». C'est le cas aussi chez l'intelligent d'Abidjan qui titre « Tribunal de première instance de Benjerville et centre d'observation des mineurs, Beugré Mambé salue une avancée majeure dans la protection des droits de l'homme ». On clore ce chapitre avec l'essor ivoirien qui barre à sa une « Inauguration du tribunal de Benjerville hier, Beugré Mambé, l'accès à la justice constitue un droit fondamental ». Voici qui met fin à cette revue des titres. Merci de l'avoir suivi à vos bacs à journaux et bonne lecture.
Merci Jean-Mélène Bitti. Avec vos rendez-vous est pris pour l'édition de 8h pour le même exercice. 28e édition de la conférence des partis sur le climat à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. L'annonce sur l'aide financière à l'endroit des pays vulnérables dès le début de ce sommet mondial sur le climat attend d'être concrétisée. Les États-Unis d'Amérique contribuent à ce fonds sur les pertes et dommages à hauteur de 17,5 millions de dollars, soit 10 milliards 655 millions de francs CFA. D'autres programmes sont également financés dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire face au changement climatique. Cette annonce a été faite par Johan Kemonesis, directeur du Hub Média Régional et porte-parole francophone du département d'État américain. Il est l'invité de la rédaction et est interrogé par Ghislain Koulibaly depuis Dubaï.
Bonjour Johan Kemonesis.
Bonjour Ghislain.
Alors vous êtes le point focal francophone au département d'État américain et puis on sait que cette 28e conférence des partis sur le changement climatique a une forte contribution de plusieurs pays dans le monde, dont les États-Unis. Votre regard?
Comme toutes les COP, pour nous c'est un grand événement. Le gouvernement américain tient quatre objectifs principaux. Pour une chose, arriver à un consensus sur le bilan mondial, on a déjà parlé de ça avant la COP, mettre le point sur la résilience, limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, mettre en marche des ressources financières pour faire face aux défis, et puis finalement, mettre en avant le leadership américain au sein de ces...
Et vous parlez de discussions, bien évidemment, et qu'est-ce qui émerge déjà de ces discussions-là et qui intéresse surtout les États-Unis?
Pour une chose, on est très optimiste et on est très content que au premier jour de la COP, plusieurs donateurs des pays développés et en train de développement ont annoncé un total de 700 millions de dollars pour faire face aux pertes et aux dommages. Et ça, c'est un chiffre très encourageant. Aussi, la coopération du gouvernement des Émirats pour mettre en contexte la limitation des énergies fossiles dans l'avenir. Tout ça, c'est très encourageant.
Mais le problème souvent, c'est que des décisions se prennent pendant les COP, des promesses se font, des engagements sont signés, des signatures se font, mais souvent c'est pas matérialisé. Hein, et là, ça a été vraiment bien accueilli, hein, l'opérationnalisation de ce fonds sur les pertes et dommages. Mais est-ce que vous pouvez nous rassurer, hein, que partant de cette COP-là, ce sont des fonds qui seront effectifs et qui seront matérialisés pour aider les communautés?
On est confiant que ce sont des fonds réel et que ça va vraiment avoir un impact réel sur le sol. Mais il est important de se souvenir aussi, il y a plusieurs autres mesures qu'on a prises pour aider les pays qui sont impactés par le changement climatique. Il y a par exemple notre initiative Feed the Future qui est au cours des deux prochaines années. On a annoncé 100 millions de dollars de financement supplémentaire pour ce programme-là. Il y a aussi un programme très innovatif qui s'appelle la Vision pour des cultures et des sols adaptés, ou VACS, c'est le sigle en anglais. Et ça qui va aider les agricultures, en particulier en Afrique, à s'adapter au changement climatique avec leur culture. Et puis, il y a tout un nouveau programme qui s'appelle PREPAR, Plan d'urgence présidentiel pour l'adaptation à la résilience, PREPAR. Et sous ce programme-là, c'est un partenariat avec le secteur privé. Il y a 31 entreprises qui se sont déjà inscrites pour faire partie de ça. Et ils mènent des ressources financières, aussi technologiques, etc., au problème.
Tout cela s'inscrit sûrement dans votre dynamique, hein, d'enclencher le leadership américain pour une résilience face aux problèmes climatiques à travers le monde, mais particulièrement en Afrique.
Oui, exactement. On pense toujours à l'Afrique au sein de ces discours. Les pays africains, les peuples africains sont parmi les plus impactés par le changement climatique. Il y a aussi, malheureusement, l'insécurité alimentaire. Il faut faire face à ça.
Merci beaucoup, Johan Schmonsis. Merci infiniment. Et je rappelle que vous êtes directeur du Hub Média Régional pour l'Afrique et porte-parole du département d'État américain.
C'est exactement voilà. Ça. Merci, Gisèle.
Merci infiniment.
Un plaisir.
À l'instant, l'invité de la rédaction interrogé par Ghislain Koulibaly. Sans transition, nous passons au rappel des titres. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé hier à l'inauguration du tribunal de première instance et du centre d'observation des mineurs de la commune de Bingerville. Et puis au Mali, au moins une quarantaine de soldats des forces armées et des chasseurs traditionnels d'Ozo auraient été tués dans une attaque du Génime dans la ville symbole de Farabougou. Merci de rester sur Radio de la Paix, un autre journal à 8h.
Radio de la Paix, mieux comprendre les enjeux.
Il était ici tout près de moi. Nous sommes tous.